Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, les occupants du conservatoire du Blône évacués par la police. Deux interviews, d'abord pour décrypter le Gymnascore, publié par le syndicat des profs d'EPS. Puis on annonce la fête de la science en Ille-et-Vilaine et à Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Et puis une recommandation, la première journée galop et droit culturel de l'Institut Chubary. Bienvenue dans L'Arène. Comme chaque jour, on commence cette émission avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous, des nouvelles de l'occupation du conservatoire du Blône à Rennes. Mercredi 4 octobre, le collectif de soutien aux personnes sans papiers de Rennes a lancé une occupation amie du conservatoire de Rennes sur le site du Blône, aux côtés d'une trentaine de personnes à la rue, dont 10 enfants. Objectif, rendre visibles ces personnes et réclamer une vraie prise en charge de l'État sur cette question. Alors cette action, elle fait suite à l'évacuation du campement des Gailleuls au mois de septembre, opération perçue comme un piège par les associations de soutien aux personnes exilées, puisqu'elle s'est accompagnée, cette opération, d'une distribution de dizaines d'OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, et également d'assignation à résidence. Depuis, un nouveau campement s'est monté dans le parc de Maurepas. On en reparlera demain avec Antoine, bénévole à Canal B. 140 personnes, dont 50 enfants, y vivent actuellement. Et une première occupation a déjà été organisée à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Un moment bref, puisqu'une évacuation policière a été menée au bout d'une heure seulement. Le sort était le même du côté du conservatoire du Blône, évacué ce jeudi 5 octobre en fin de matinée sur demande de la ville de Rennes, qui, et le collectif de soutien aux personnes sans papiers le regrette, n'a pas souhaité dialoguer avec les personnes sur place. Une nouvelle assemblée générale doit se tenir en fin d'après-midi pour discuter de la suite du mouvement. C'était l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec une première interview. Samy Amrouni, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous faites partie du SNEP FSU Bretagne qui organisait en fin de semaine dernière une présentation publique pour parler sport à l'école. Le SNEP, c'est le syndicat national de l'éducation physique qui concerne le second degré. Il y a combien d'adhérents à l'échelle de la Bretagne ?
Alors la Bretagne, ça dépend des années, mais on est entre 400 et 500 adhérents à la Bretagne, à peu près à 30% de syndicats.
Vos missions, comme tout syndicat, c'est de défendre le personnel, en l'occurrence là donc des enseignants en éducation physique et sportive, mais aussi d'orienter les politiques éducatives en matière d'EPS, on peut le dire comme ça ?
Exactement. On n'est pas juste sur défendre les intérêts particuliers des personnels, même si c'est un élément important, on est aussi sur apporter les meilleures conditions possibles d'apprentissage pour les élèves.
Ce que vous présentiez jeudi dernier, jeudi 28 septembre, à la salle du jeu de paume ici à Rennes, c'était le Gymnascore. On imagine un peu inspiré du fameux Nutri-Score qu'on trouve sur les produits alimentaires qu'on achète en magasin. Là, il s'agit d'un outil, d'une enquête pour connaître l'état des équipements sportifs avisés scolaires. Comment est née cette idée de lancer un Gymnascore ?
Alors cette idée, on la doit à Olivier Leroy, un des camarades du SNEP Bretagne, qui très justement s'est dit que le Nutri-Score, c'était un outil qui était assez parlant et visuel, et que ce serait une bonne façon de rendre visible un petit peu les bons points, et puis ceux qui restent à travailler pour les équipements sportifs en montagne.
Il y avait déjà eu une enquête, mais qui date un peu maintenant.
Exactement, alors, on était un peu plus jeunes. C'est le début du travail du SNEP sur les équipements sportifs, qui date de 2001, et qui d'ailleurs avait amené au premier référentiel national, sur lesquels se sont appuyées certaines collectivités, dont la Bretagne, et qui ont pu construire, d'ailleurs il y a une quinzaine de salles en Bretagne qui sont sur ce référentiel et qui apportent satisfaction, sauf que malheureusement le temps passe, il n'y a pas que nous qui vieillissons, les salles aussi se dégradent, et puis en plus de la dégradation, il y a aussi des fois d'autres référentiels qui sont utilisés, qui sont moins adaptés à la pratique des scolaires et la pratique fédérale, et donc on jugeait important, au vu de ce que nous remontent les collègues, de remettre le pied à l'étrier et de refaire un point.
Sur la période 2021-2022, vous avez donc analysé l'état de 255 équipements multisports scolaires ici dans la région Bretagne. Il faut peut-être redire aux auditeurs qui financent ces équipements pour savoir à qui on adresse son message ensuite.
Exactement. Bien, des fois, les gens croient que c'est l'État qui finance majoritairement les équipements, alors que pas du tout. Ce sont les collectivités locales qui ont ces compétences-là. Et donc, ça dépend en fait du niveau. Si c'est pour les écoles, ça va être les mairies. Si c'est pour les collèges, c'est le conseil départemental. Et si c'est pour les lycées, c'est le conseil régional, de façon globale. Donc, très souvent, quand même, vu que les installations sont situées sur une mairie, la mairie est détentrice de l'installation, mais il y a des subventions qui sont allouées pour financer à la fois la construction et puis après le fonctionnement. Donc voilà comment ça se passe. On verra peut-être un mot après. C'est aussi un des points limitants du financement de ces équipements.
Le constat, c'est que même s'il existe localement des situations satisfaisantes qu'on peut repérer en vert, si vous allez voir le détail là, de cette présentation sur le site snepfsu-rennes.net, même s'il existe des équipements qui sont donc satisfaisants, je note qu'il n'y a quand même pas une seule salle rennaise parmi les 21 équipements dans le vert. Dans l'ensemble, il manque des équipements, ça c'est la première chose. Et pour les bâtiments existants, il y a des soucis de fonctionnalité. Et vous avez aussi analysé d'autres critères, mais ça va pas très bien, la situation elle est pas très bonne.
Alors on peut dire qu'elle est pas très bonne, effectivement. Alors dans l'enquête, on s'est concentré sur trois critères principaux. La fonctionnalité, à savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, et j'insiste vraiment sur la multiplicité des publics, c'est-à-dire pas que l'EPS, le sport scolaire, le sport associatif. Et donc ça c'était un aspect important pour pouvoir changer d'équipement, que ce soit mobile, qu'il y ait des tracés différents, qu'il y ait des réservations pour différents poteaux, du rangement matériel, enfin voilà. Tous ces aspects-là, c'est la fonctionnalité. C'est vraiment le premier critère de l'enquête. Et puis il y en avait deux autres. Un qui était sur l'accessibilité, pour permettre à tous d'y accéder, et donc notamment les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, j'en dis un mot, il y avait un rassemblement tout à l'heure pour les AESH, pour qu'on ait des meilleures conditions, parce qu'il en manque un paquet quand même dans le département et en France. Et l'autre aspect de l'accessibilité, c'est aussi où est située une salle. Si on construit une salle alors qu'elle est à 10 km de toutes les écoles et collèges, bon, bah, il va y avoir un problème. Et puis le dernier aspect, qui regroupait à la fois des questions de santé, sécurité et d'écologie, bien là, on avait des aspects qui étaient peut-être de base, mais avoir une pharmacie sur place, bah, ça paraît important. Pourtant, il y a 70% des salles qui n'en ont pas. Avoir des moyens de communication au téléphone, bref, avoir des points d'eau en nombre suffisant, surtout, on voit comment évolue un petit peu la situation. Et puis le dernier point écologique, alors c'est celui sur lequel on estime, nous, qu'il y a vraiment un gros travail à faire, c'est... pas le confort, mais en tout cas les émissions et le confort thermique, acoustique, qui forcément, comme il n'y avait pas les mêmes réglementations avant, se retrouvent en difficulté avec des situations où les collègues ont hyper chaud, enfin les collègues, les élèves d'abord, ont très chaud l'été, très froid l'hiver. Et donc voilà, c'est ces trois aspects qu'on a mis un petit peu ensemble, et on a tiré un indice qui est général, et puis l'indice sur la fonctionnalité, c'est là où on peut dire que ça va mal, c'est qu'on a 68% des salles qui n'atteignent pas le niveau satisfaisant. Donc là, on voit qu'il y a un vrai problème. Et la moitié des salles qu'on a testées, sur 82% des établissements, donc c'est quand même énorme, eh bien, la moitié de ces salles se retrouvent en situation d'urgence, c'est-à-dire avec des scores qui sont très très faibles.
C'est sur ce volet fonctionnalité que vous estimez qu'il est le plus facile d'agir aujourd'hui ?
Alors, sur certains points, c'est facile d'agir, mais encore une fois, et c'est le but de nos propositions qu'on fait en résultat de cette enquête, c'est qu'il y a une maîtrise à l'usage, qui est spécifiquement le fait de ceux qui l'utilisent, et qui sont donc les usagers, les élèves et les enseignants de PS qui l'utilisent souvent, puisque c'est leur métier. Je donne un exemple très simple sur la fonctionnalité. L'emplacement des réservations pour mettre des poteaux pour pouvoir fonctionner, c'est quelque chose qui se prévoit avant. Une salle qui a été rénovée, un sol qui a été rénové dans une salle à Rennes, à Clonay, eh bien, les réservations n'ont pas été prévues. Donc le sol est neuf. Par contre, les collègues ne peuvent plus faire de volley-ball, les élèves non plus. Donc le club qui fait de volley ne peut plus non plus. Ça, c'est un exemple tout bête qui ne coûte pas grand-chose, mais qui coûte une anticipation et une écoute de la maîtrise d'usage. C'est une de nos revendications, qu'à chaque rénovation-construction, l'équipe EPS soit sollicitée, ou en tout cas son ou sa coordinatrice, soit sollicitée pour donner son expertise et ses conseils.
La note moyenne pour les équipements sportifs ici en Bretagne, avec une vocation scolaire, mais pas que, on l'a compris, cette note moyenne, elle est de 12,78 sur 20. Et si on prend l'ensemble des critères que vous avez évoqués aujourd'hui, 20% des salles sont en situation d'urgence. Peut-être juste une question sur le volet écologique de ces salles. C'est là que peut-être vous pourrez aller plus loin dans les années à venir. Vous vous êtes un peu arrêté à ce qui était visible sans pouvoir aller forcément plus dans le détail.
Tout à fait. Alors là, on a une certaine humilité, hein, et puis un principe de réalité. Pour identifier ces critères, alors pour le volet écologie, il y en avait quelques-uns. C'était tout simplement la présence ou pas de récupérateur d'eau, la présence ou pas de panneaux solaires, et puis après, l'état visible du gymnase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un trou dans le mur, on se doute qu'au niveau de l'isolation thermique et acoustique, ça ne va pas être terrible. Donc on s'est arrêté à des choses assez visibles, mais qui sont quand même assez significatives. Pour autant, il est évident qu'il faut aller plus loin, mais ça aussi les collectivités le savent très bien puisqu'elles le payent en dépenses d'énergie et en inconfort pour ceux qui y participent. Donc ça, il faut creuser. Et nous, sur notre étude, on n'a pas creusé davantage là-dessus. Par contre, on a un référentiel national qui s'appelle le RISET et qui justement fait des préconisations très précises sur les types de matériaux qu'on utilise, les types de luminaires, le type de chauffage, enfin voilà, des choses qui relèvent de l'expertise et de l'ingénierie, mais sur lesquelles le SNEP a pu acquérir au niveau national une expertise et qui le met à disposition de tous. Il est accessible sur nos sites et bien sûr à destination des décideurs et des financeurs.
Un référentiel, là, le RISET, qui vient juste de paraître et édité donc par le SNEP, Syndicat National de l'Éducation Physique. Je vais donner un exemple de salle rennaise, qui est décrite comme étant en situation d'urgence, là, d'après votre Gymnascore. C'est la salle du Landry, rue de Châteaugiron, salle de sport du Landry, qui obtient une note de 7,10 sur 20. Ça se voit forcément, une salle qui est en situation d'urgence, c'est quelque chose de visible? Elle ressemble à quoi?
Je peux dire que ça se voit, en tout cas quand on rentre on voit. Alors ça se voit parce que y a plusieurs éléments. Déjà on va se dire la surface elle est petite, parce que c'est un des critères. Les tracés sont peu nombreux, là encore, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire plus d'activités. Les panneaux peuvent être fixes et donc qui empêchent une mobilité. Un exemple tout bête, si les panneaux de basket ils sont fixes et qu'on peut pas les relever, on va pas pouvoir faire de badminton ou de volleyball. Donc on a des aspects comme ceci. Et puis après, quand on est à une note de 7, je le disais d'ailleurs hier sur un autre média, ça veut dire aussi qu'au niveau isolation, on voit très bien que y a des ouvertures. Il y a des portes qui ne ferment pas, les points d'eau qui ne sont pas fonctionnels ou autres. Donc là, on a un mélange, entre guillemets, de à la fois de la vétusté, d'un manque d'entretien, parce qu'il faut des personnels, de l'argent, et que ça aussi, c'est difficile pour les collectivités, et puis aussi peut-être un impensé à la construction. Mais ces salles-là, on les a mis dans le plan d'urgence parce qu'il faut les retravailler. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que de façon globale, pour tous les élèves, on ait vraiment une logique qui soit différente et de se dire, on va prendre toutes les expertises en place. Le STEP n'en apporte qu'une. La maîtrise d'usage, très clairement, et puis sur les constructions, on apporte des éléments, mais mettre tout ça en commun pour arriver à faire que, dans les rénovations à venir, on ait à chaque fois le mieux du mieux. Alors, on sait que ce ne sera pas toujours parfait, mais au moins, on ne va pas se dire, une semaine après avoir eu un sol neuf, comme j'ai dit pour Clonay, zut, ce serait dommage, on aurait pu nous écouter.
Ce travail il a été mené avec la région Bretagne et le rectorat, qui dépend donc de l'État. D'autres partenaires étaient présents au moment de la présentation en fin de semaine dernière, et le travail que vous avez mené, il aboutit maintenant à un plan d'urgence pour les équipements sportifs bretons éco-responsables. C'est le nom de ce plan. Vous avez dressé des constats, mais maintenant, comment est-ce que vous vous sentez écouté par les conseils départementaux, les conseils régionaux et autres élus d'ailleurs qui étaient présents à ce temps de présentation?
Oui, alors effectivement, il y avait du monde, il y avait aussi les représentants de parents d'élèves, les représentants de la mairie de Rennes, des 4 conseils départementaux, de l'UNSS.
L'UNSS, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire.
Parce que l'UNSS aussi est un partenaire d'utilisation des équipements sportifs, et le représentant de l'ANDES aussi, l'Association Nationale des Élus au Sport. Donc il y avait tout un panel de personnes qui ont pris la parole pour certains et certaines, et qui ont tous reconnu en fait la qualité du travail et la nécessité d'avancer ensemble. Donc nous, on pense qu'on est écoutés. Maintenant, être écouté, ça suffit pas, parce qu'on est écouté quand on présente ça, et à un moment donné, c'est les actes qui vont faire la différence. Et donc nous, on a posé 4 revendications, et c'est sur ces revendications-là qu'on aimerait qu'il y ait des actes. La première, c'est qu'il y ait un cahier des charges EPS, qui serve à la fois de guide pour les constructeurs, et aussi de critère d'attribution des subventions. Ce qui forcément va amener à être un peu plus vigilant sur le respect de ce cahier des charges. Deuxième élément, qu'il y ait un groupe de travail tripartite, qui mêle la collectivité territoriale de rattachement, le rectorat, c'est-à-dire l'institution académique, et notre organisation syndicale, pour combiner justement les différentes expertises. Troisième revendication, un comité pilotage local. C'est-à-dire quand il y a une rénovation qui se fait à tel endroit, exemple, il devrait y en avoir une normalement prochainement au gymnase Albert Demain, et bien que les équipes qui utilisent ce gymnase soient associées à ce comité local pour justement faire remonter leurs besoins, et puis après qu'on trouve un arbitrage, parce que forcément la décision elle reviendra à la collectivité. Et donc ces revendications-là, on va estimer nous qu'on aura été entendu quand elles vont être mises en place. À titre provisoire, là, pour l'instant, la région a déjà accepté qu'il y ait ce groupe de travail tripartite. Et elle était d'ailleurs présente pour en dire deux mots jeudi dernier. Maintenant, nous, ce qu'on demande aux autres collectivités, c'est aussi de faire un pas. Chaque collectivité a son autonomie, bien évidemment. Mais sur ce sujet-là, on pense qu'on peut arriver à avoir un projet commun et de valider ces revendications-là. Et qui, bien sûr, aboutissent concrètement, dans les prochains investissements et rénovations, à peut-être prioriser les salles sur lesquelles on a identifié de gros manques.
Et l'autre acteur à qui vous demandez de faire un pas supplémentaire, c'est aussi l'État. Les conseils départementaux, régionaux avancent souvent l'argument financier, pas seulement sur sujet sportif. Aujourd'hui, particulièrement dans la situation d'inflation qu'on connaît, les budgets sont serrés et donc insuffisants là, pour ces rénovations dont on parle.
Complètement. Et donc là, on va dire qu'il y a quand même une hypocrisie assez forte là-dedans. Parce que là, je vais le dire, quelles que soient les couleurs politiques et les choix des personnes, les collectivités territoriales, depuis 2013, elles ont vu leur budget diminuer de 30%. Donc très clairement, pour quelle que soit la collectivité, commune, conseil départemental, conseil régional, c'est dur de gérer au niveau de ses finances et ils sont obligés de faire des choix. Donc ça, on en a conscience. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout sur les élus des collectivités qu'on veut mettre le projecteur en disant « ils font pas le travail », même si on pourrait le faire mieux, hein, mais c'est pas sur eux qu'on veut viser, c'est l'État. À un moment donné, pour respecter la trajectoire qu'on doit avoir en 2030, c'est-à-dire la loi Élan et le décret tertiaire 2019, pour résumer, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, il faut rénover 80% des gymnases et piscines. Donc sauf à croire qu'on va avoir une baguette magique, ça ne se fera pas avec les moyens qu'ont les collectivités. Donc nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est que l'État finance à 50% tout projet de construction et rénovation qui respecte un cahier des charges qui soit exigeant, et nous on en propose un à travers l'Orizette, à la fois fonctionnel, éco-responsable, et qui respecte les contraintes des réglementations récentes.
J'aimerais rattacher là, le sujet dont on parle aujourd'hui à une question, à des questions de société. Il se trouve que je vous ai déjà reçu plusieurs fois pour parler de la place insuffisante à votre goût de l'éducation physique et sportive à l'école. D'un point de vue santé, la sédentarité des jeunes en France, elle inquiète de plus en plus, que ce soit dans le corps enseignant, mais aussi dans le corps médical. Finalement, ces salles de sport, est-ce qu'elles ont une responsabilité là-dedans ?
Alors, bien sûr qu'elles ont une responsabilité directe et indirecte. Elles ont une responsabilité directe, je vous donne un exemple. À un moment donné, si on veut développer les capacités physiques de nos jeunes et leur donner le plaisir de pratiquer, parce que pour que les élèves qui sont en collège continuent leur pratique après en dehors de l'école, il faut qu'ils aient pris un certain plaisir. Alors nous, on a un rôle en tant que prof de PS de proposer des contenus qui soient plaisants. Mais pour vous donner un exemple très simple, si on n'a pas d'équipement, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ça veut dire que peut-être à un moment donné, moi ça m'est arrivé, en hiver, bah, on est dehors et les conditions ne sont pas terribles. Alors l'image qu'en ont les élèves, elle n'est pas idéale. Mais on est dans une salle où on voit qu'elle tombe en décrépitude et qu'il n'y a pas de tracé, qu'il y a même des trous à certains endroits. Quel plaisir prennent les élèves dans ces conditions-là ? Donc ça, c'est deux aspects, on va dire, très, très terre-à-terre. Et puis après, il y en a un autre, c'est qu'à un moment donné aussi, pour pratiquer, découvrir certaines activités pour leur offrir une pluralité. Je prends l'exemple de l'escalade. L'escalade, la pratiquer en plein air, sur des falaises, c'est compliqué. Il faut du matériel, il faut en avoir à proximité. À Rennes, on n'en a pas énormément. Par contre, de l'escalade en SAE, en surface artificielle, ça, c'est possible. Pour leur donner ce goût-là, il faut des salles d'escalade. À Rennes, il y a un gros manque. Les salles d'escalade, elles sont privées. Et donc, les collèges ou les lycées qui veulent y aller, pas toutes, mais une partie, elles doivent payer pour y aller assez cher et ils n'ont pas la main pour travailler comme elles le voudraient. Donc très clairement, la question des équipements sportifs, elle rejoint le plaisir qu'ont les pratiquants à aller, la capacité pour les équipes à varier pour que les élèves trouvent à un moment donné une activité qu'ils ont envie de pratiquer plus tard. Et puis après, il y a le troisième aspect très simple, c'est le lieu de l'installation. Donc à un moment donné, je prends l'exemple, mon cas personnel, désolé, je veux faire du demi-fond à mes élèves pour travailler leur capacité cardiaque. Donc là, contre la sédentarité, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Bah, j'ai deux possibilités, hein. Soit j'ai une installation qui est pas très loin et du coup, j'ai un temps de pratique qui est important, soit l'installation en fait elle a 25 minutes, voilà, je peux pas aller en car ou quoi que ce soit, donc en fait on va marcher, donc effort très léger, et puis sur place on aura moins de temps de pratique. Donc le temps de pratique c'est un élément clé dans l'évolution, la pratique, le plaisir, et c'est aussi la raison pour laquelle, au-delà des équipements, nous, notre syndicat marche sur plusieurs jambes, on est sur le PEDA, on est sur les équipements, on est aussi sur les structures, on demande à ce qu'il y ait 4 heures de PS du primaire jusqu'au la fin du lycée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 4 heures en 6e, et puis après, ça y est, ça fond. C'est 3 heures, puis après, ça fond encore au lycée, 2 heures, alors qu'on sait pertinemment que c'est en grandissant que les élèves se détachent un petit peu de la pratique sportive. Donc 4 heures sur toute la scolarité, jusqu'à la fin du lycée, c'est une revendication pour nous qui permettrait de lutter contre la sédentarité.
Vous militez aussi pour qu'il y ait plus de recrutement d'enseignants en éducation physique et sportive. Et juste là, avec cette place insuffisante du sport, c'est qui le public qu'on perd ? Est-ce que c'est d'un point de vue social et d'un point de vue du genre ? Je sais que les filles, justement, décrochent au moment du lycée. Je suis là pour en témoigner.
je confirme, malheureusement, même si dans les pratiques qu'on peut avoir en EPS et dans le sport scolaire, parce que j'y reviens, le sport scolaire, c'est une partie importante du métier de prof de PS, c'est une pratique volontaire, mais complémentaire à l'EPS. C'est moindre que dans le milieu fédéral, mais quand même, quand même, on a une majorité de garçons qui pratiquent et une majorité, effectivement, de filles qui s'arrêtent par la suite. Et donc, pour lutter contre ça, bah, on l'a dit, il faut des conditions correctes, il faut du temps. Et pour ça, il faut avoir des personnels formés et compétents. Et là, je parlais d'hypocrisie sur le financement tout à l'heure. On a une hypocrisie puissance 10, avec un gouvernement qui crie sur tous les tons qu'il faut développer le sport et l'EPS à l'école. Le sport à l'école, c'est la mère des batailles, disait Amélie Oudéa-Castéra. Gabriel Attal disait l'EPS sera plus que jamais à l'honneur. Sauf que quand on prend les chiffres très concrets, depuis 2017, on a plus 29 000 élèves en gros dans le second degré public et on a moins 1 201 profs d'EPS. Ça, c'est les chiffres du ministère. Donc on voit que concrètement, nous on le voit sur le terrain, à la rentrée 2023, là, il y avait, d'après notre enquête qu'on a menée en septembre, il y avait 2500 heures d'EPS qui n'étaient pas assurées. Ça, c'est la réalité. Donc dans les discours, on dit qu'on veut développer la place, ben nous, on, encore une fois, on veut des actes. On propose 1500 recrutements par an pendant 5 ans. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas le vivier, puisqu'il y a encore plus de 3 à 4000 candidats qui passent le concours. Donc la solution, elle est simple. On recrute, on forme, en cassant pas la formation comme ils sont en train de le faire cette année, on met des équipements de qualité et on met 4 heures de PS aux élèves jusqu'au lycée. Avec ça, je peux vous promettre que la situation elle s'améliore et qu'on arrive à donner le goût de la pratique physique et sportive à beaucoup plus d'élèves.
Je vous représente, Samy Amrouni, vous êtes délégué au SNEP FSU Bretagne qui a organisé en fin de semaine dernière une présentation publique pour parler sport à l'école et présenter son Gymnascore. Le détail est à retrouver en une cinquantaine de pages en ligne sur le site snepfsu-rennes.net. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Chariots of Fire sur Canal B. C'est la sélection musicale de l'invité qu'on vient de quitter, Sammy Amoroni. Une reprise que j'ai choisie à la guitare en acoustique, signée de l'italien Alberto Zigliotto, de ce morceau originellement composé par Vangelis et qui est tiré du film du même nom, Chariot de Feu, sorti en 1981. Un film qui avait été lauréat de 4 Oscars l'année suivante, en 1982, et où on suivait deux athlètes britanniques qui participaient aux JO de 1924. C'était il y a bientôt un siècle. Vous êtes en train d'écouter l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, soit branché sur le 94.0, peut-être connecté à la radio numérique terrestre, le DAB+, notamment si vous êtes équipé d'un véhicule plutôt récent. Vous pouvez aussi écouter cette émission du lundi au vendredi sur le site canalb.fr, où sont d'ailleurs disponibles en podcast les émissions réalisées par les salariés, mais aussi par les 70 bénévoles de la radio. Allez, c'est le moment d'une seconde interview. Michel Cabaret et Éric Collet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Michel Cabaret, vous êtes le directeur de l'espace des sciences, plutôt voisin de Canal B, entre les murs des champs libres. Éric Collet, vous êtes professeur à l'université de Rennes, à l'Institut de physique de Rennes pour être plus précis. Ensemble, on annonce la fête de la science qui est organisée du 6 au 16 octobre ici à Rennes et partout en France d'ailleurs. Michel, on peut peut-être commencer par représenter les lieux pour les auditeurs qui ne sont pas encore venus à l'espace des sciences. Il y en a forcément. L'espace des sciences, un planétarium, le laboratoire de Merlin et puis des expositions.
C'est cela, une sur le cerveau permanente, une actuellement sur les intelligences animales, humaines, artificielles, et puis tous les mardis des conférences avec des invités prestigieux dans tous les domaines de la science, un nouveau site internet, une revue scientifique, Science Ouest pour le grand public, et puis plus loin de nous, un beau projet à Morlaix qui va ouvrir ses portes l'année prochaine dans la Manufacture Royale des Tabacs, où on y parlera de culture scientifique mais aussi de culture industrielle.
En tout, ce sont combien de personnes qui font vivre ce projet de l'espace des sciences ?
Alors, nous avons à peu près une cinquantaine de salariés, sans compter le personnel d'accueil, d'entretien, de nettoyage, gardiennage et autres fonctions dites aujourd'hui support. C'est une équipe formidable, hein, dévouée au service de la diffusion des connaissances, une équipe de passionnés. Et l'espace des sciences est aujourd'hui en région le centre de sciences qui reçoit le plus de public, après le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences à Paris. Et actuellement, on retrouve nos publics, notre public d'avant le Covid, c'est-à-dire plus de 200 000 visiteurs chaque année. C'est donc un lieu très fréquenté à découvrir absolument pour ceux et celles qui arrivent à Rennes.
On arrive à l'événement qui nous intéresse, la fête de la science. Alors c'est un événement national qui est organisé du vendredi 6 et jusqu'au 16 octobre, même un petit peu plus longtemps pour le public de scolaire. L'événement, il est coordonné à l'échelle de la région par l'espace des sciences et ça fait presque 20 ans que c'est le cas. Il y a donc toute une programmation qui s'apprête à commencer dès demain dans le département. Combien d'événements en tout ? C'est assez énorme.
Il y a 260 événements
dans la région.
C'est conséquent, ça prouve bien l'implication de la communauté scientifique pour mettre cette science accessible, pour la diffuser, pour partager les connaissances et puis aussi pour la rendre festive, parce que cette année, le thème annuel, c'est science et sport, une année pré-olympique, et donc on va mouiller le maillot.
Je donne quelques recommandations d'événements à vivre. Il sera possible de découvrir la station marine du Créseau du côté de Dinard, une station biologique. Le 8 octobre, donc c'est dimanche prochain, ici à Rennes, une fresque géante du climat est proposée à l'université de Rennes. Et puis le jeudi 12 octobre à partir de 18h à l'INSA, on pourra apprendre à enquêter sur les scientifiques au féminin, scientifiques oubliés, toujours à l'INSA le même jour. Un village des sciences sera proposé par Maude Guézo, on peut en redire un mot, une scientifique passionnée.
Oui, c'est une chercheuse enseignante de l'INSA, qu'Éric connaît bien aussi, hein, bien évidemment. Et elle est ambassadrice régionale de la fête de la science. Et elle participe à nos activités de manière constante et passionnée. Et nous sommes contents aussi de son action, parce qu'auprès de ses étudiants, elle est extrêmement active. Elle mobilise un petit peu tout le monde. Et puis aujourd'hui, l'INSA fait partie de ce ce que l'on appelle maintenant l'Université de Rennes. Et il y a un beau label maintenant qui a été décerné à l'Université de Rennes qui s'appelle Science avec et pour la société. Et il est important finalement qu'on retrousse tous nos manches pour donner le goût des sciences au plus grand nombre. Et Maud est la première toujours pour réaliser ses actions. Et c'est touchant d'avoir son aide efficace. Elle sait aller mobiliser les chercheurs comme Eric et d'autres. Hein. Mais maintenant, je pense qu'il y a un bel environnement aussi autour de l'espace des sciences. Mais on a besoin aussi d'incarner tout cela avec des personnes. Et puis, c'est une femme. C'est important de donner le goût des sciences aussi aux jeunes filles qui, malheureusement, quelquefois, sont plus minoritaires dans les carrières scientifiques. Donc, il s'agit aussi de susciter des vocations et de l'intérêt.
L'INSA que vous avez cité, c'est une école d'ingénieurs. Le programme qui est riche, programme complet, il est à retrouver en ligne à la fois sur le site national fetedelascience.fr et puis sur le site de l'espace des sciences, espace-science.org, avec donc 116 événements organisés ici en Ille-et-Vilaine sur 28 communes. Quand on regarde un peu quel type d'acteurs on retrouve, on voit des bibliothèques et des médiathèques qui sont surmotivées, qui proposent beaucoup de choses. D'autres structures aussi, notamment du côté de la Rance.
Oui, alors l'usine marémotrice, par exemple, de la Rance, hein, pour comprendre finalement les marées, comment un petit peu les canaliser pour l'énergie. C'est déjà une activité ancienne, hein, dans notre département, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de lieux insolites à Orgères, à la Richardet, à Mélès, à Tréfindel, sur à la découverte de l'ADN, et comme vous le disiez, beaucoup d'espaces publics, et ça c'est important, des médiathèques. Souvent les profils de bibliothécaires ont pour origine les sciences humaine et sociale. Alors nous, on n'a rien contre avec Eric, hein, mais bien au contraire. Mais disons qu'il est important aussi qu'elle s'ouvre à la science, les bibliothèques. Et cette année, effectivement, c'est une bonne édition pour la science dans les bibliothèques.
Et dans une médiathèque, celle de Saint-Grégoire, mais on peut annoncer un temps d'échange et d'information vendredi 6 octobre à partir de 19h pour se poser la question suivante. Peut-on parler de conscience chez les animaux? Ça, c'est du côté de Saint-Grégoire. La fête de la science, c'est aussi un programme destiné aux scolaires, plus spécifiquement, sur une période qui est un petit peu plus étendue jusqu'au 20 octobre. Et là, 35 propositions pour, entre autres, peut-être faire germer des envies de parcours scientifiques chez ces jeunes. Et on arrive donc à Rennes où là, la fête de la science, elle va prendre la forme d'un village qui va s'installer au cœur des Champs Libres le week-end suivant, donc du 13 au 15 octobre. Ça va se passer essentiellement dans le hall, pour bien se représenter.
Oui, c'est ça, dans tout le hall des Champs Libres. Et on aura effectivement, dès le vendredi, déjà plus de 1200 enfants, des scolaires qui sont inscrits. Donc ça sera vraiment la ruche des sciences. Et on a la chance de bénéficier de la mobilisation de 200 scientifiques, hein, pour toute cette fête de la science. On ne les remerciera jamais assez parce qu'ils donnent de leur temps bénévole pour cette activité. Et je pense que tous les ans, maintenant, c'est entré dans les mœurs, la fête de la science. Bon, elle est peut-être en fête toute l'année à l'espace des sciences, mais pendant la fête de la science, toute la communauté scientifique est un petit peu à nos côtés et c'est un moment vraiment formidable.
Pour cette occasion, il y aura un tarif réduit proposé pour accéder à l'espace des sciences durant le week-end. Et puis, c'est important de le dire, le 13, une visite réservée au public malvoyant, et le 14, une visite proposée là en langue des signes française. Et le thème exploré cette année à l'échelle nationale, c'est celui du sport, en lien donc avec la recherche et les sciences. On imagine que c'est en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Et c'est le moment où je me tourne vers Eric. Eric Collet, vous êtes professeur à l'Université de Rennes, à l'Institut de Physique de Rennes pour être précis. Votre truc, c'est pas le sport?
Non, alors effectivement, à l'Institut de physique de Rennes, nos travaux portent plutôt sur les transformations ultra rapides des matériaux. On s'intéresse au contrôle de leurs propriétés par la lumière, donc voir comment les photons interagissent avec des électrons pour modifier la structure atomique de la matière. Et donc là, on a déjà perdu beaucoup de gens. Et donc voilà, la fête de la science, c'est l'occasion de...
De se poser des questions.
Oui,
même pour
mais
vous.
Alors déjà de montrer que les chercheurs sont des gens passionnés et qui ont envie de transmettre leur savoir. et que la culture scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je trouve qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, quand on entend des gens qui défendent que la Terre est plate ou d'autres choses comme ça, ou même des politiques qui parlent d'énergie sans savoir ce que c'est, on a un gros manque de culture scientifique en France et on a besoin de scientifiques. Et donc, des fois, parler directement de nos activités de recherche, en particulier à un jeune public, c'est compliqué. Alors que là, on a une occasion unique de s'appuyer sur le sport. Et donc, nous, on a pris l'exemple du badminton parce que c'est le sport le plus rapide au monde. Et que si on regarde un match de badminton et qu'on le filme avec une caméra normale, en fait, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais si on va le filmer jusqu'à 4000 images par seconde, comme on l'a fait, on va voir les processus physiques élémentaires, le volant qui rentre en contact avec la raquette, l'énergie qui est transférée de la raquette au volant. Le volant qui tourne sur lui-même dans un seul sens parce qu'il a une certaine symétrie, il est chiral, il a une certaine propriété. Et donc la question qu'on s'est posée pour s'amuser, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence entre un gaucher et un droitier. Et donc, comme on le fait en laboratoire, on a posé la question scientifique, on a eu une approche basée sur des modèles pour essayer de comprendre comment se passent les choses. Et donc on met en place un protocole expérimental pour faire des mesures, donc avec des droitiers et des gauchers. Et puis on va voir ce que ça donne pour voir si on valide la théorie ou la compréhension qu'on a de ce qui se passe, ou si au contraire on a tout faux et qu'il faut faire autre chose. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les sciences, dans la vie de tous les jours, dans les laboratoires.
C'est bien cette démarche scientifique que vous allez porter à la vue du public durant le week-end, durant le Village des Sciences installé au Champ Libre les 14 et 15 octobre. L'Institut de Physique sera donc là pour réaliser une démonstration entre badminton et slow motion. Il y aura des joueurs donc sur place, dont une qui est très très forte.
Oui, alors à l'Institut de Physique de Rennes, il y a quelques collègues qui font du badminton et on n'est pas des joueurs de très haut niveau. Par contre, on a un partenariat avec le Flumil Badminton qui est le club de National 1 de la métropole rennaise. Donc on aura trois joueurs de très haut niveau qui vont venir. Et puis on aura la participation de Faustine Noël qui est vice-championne du monde de badminton, vice-championne olympique, championne européenne en para-badminton. Et en fait, le badminton, c'est aussi un modèle d'inclusion en termes de mixité, de handicap. Et c'est aussi, ça fait aussi partie des choses à promouvoir. Et dans le cadre du Festival des sciences, c'est aussi un aspect des sciences humaines et sociales qui rentre dans la discussion.
Autre proposition à découvrir là, durant ce Village des Sciences, les 14 et 15 octobre, en tout cas pour le grand public, ici à Rennes, une exposition et animation autour du Brest-Glace, un canoë qui va partir dans l'Arctique. C'est le projet Arctic Lab mené par un aventurier qui s'appelle Vincent Grison et qui sera là pour parler de ce projet-là. Le thème exploré, on l'a compris, c'est le sport. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ici à l'échelle rennaise, comment se croisent ces deux sujets, sport et recherche? Il y a des laboratoires qui sont vraiment spécialisés sur ces questions et on les trouve aussi abordés de façon un peu transversale dans d'autres laboratoires.
Dans le domaine de la biologie, historiquement, à Rennes, depuis très longtemps, on a deux toujours très bons laboratoires de recherche en biologie du sport. Le laboratoire du regretté professeur Roche-Congar, qui était le médecin de l'équipe de France de football. Et donc lui-même, sur sciences et sport, il a beaucoup travaillé, notamment dans le domaine de la biologie, avec de grosses équipes. Je pense au professeur Carré en cardiologie sur le sujet. Et puis à l'Université de Rennes 2 et à l'ENS, on a aussi de très très belles équipes sur biologie du sport et sciences du sport.
ENS pour École Normale Supérieure.
Et donc, ça tombe bien finalement que le thème national de la fête de la science soit sur le sujet. Et ça nous permet aussi de valoriser tous ces travaux qui, comme le disait Eric, sont méconnus finalement du public et qu'on se doit de partager pour démystifier le métier de chercheur, comprendre que ces chercheurs sont proche de nous, accessible, et puis nous explique des choses pour satisfaire notre curiosité, et puis aussi pour améliorer les performances sportives. C'est pas du dopage, la science, au contraire, ce sont des encouragements à mieux comprendre notre corps pour améliorer justement le geste, comme le disait Eric aussi, sur le badminton, les différences droitier-gaucher, et grâce à cette démarche expérimentale, en fait, on promeut cette culture scientifique, et à l'heure où on a bien bien besoin d'une pensée rationnelle et de combattre l'obscurantisme. Je pense que la fête de la science est un endroit merveilleux pour tout cela.
Une fête de la science qui se décline donc en 116 événements sur 28 communes du département du 6 jusqu'au 16 octobre. Pêle-mêle, il y aura des visites, des rencontres, expositions, mais aussi des projections à la fois sur des sujets tels que l'archéologie, les collections notamment d'instruments, les mathématiques, la biodiversité ou encore la musique. Il n'y aura donc pas que du sport. J'en profite pour recommander peut-être cette rencontre au Café des Champs Libres le samedi 14 octobre à 18h30. Sport et société, quelle représentation du corps féminin dans la littérature et les médias? C'est la question qui sera posée. Est-ce que vous avez, vous, des recommandations d'événements à pas manquer, là, dans les semaines à venir?
Moi, je dirais que le village des sciences, c'est vraiment l'endroit où on peut satisfaire sa curiosité, c'est-à-dire venir sans aucune appréhension. Et quel que soit le niveau, finalement, que l'on peut avoir et les craintes de se dire « Oh là là, la science, elle est incompréhensible, elle n'est pas pour moi », là, on trouvera forcément chaussure à son pied parce que les chercheurs qui sont là sont disponibles, les médiateurs, il y a des jeunes doctorants. Donc, on peut venir en famille aussi découvrir la fête de la science. Moi, je dirais vraiment... sans hésiter, le village des sciences du 13 au 15 octobre prochain.
Encore une fois, il n'y a pas seulement la science, il y a tout ce qu'il y a autour. On retrouve des sujets qui peuvent intéresser aussi les gens qui ne sont pas sportifs, comme le handicap, la mixité, les choses comme ça, et qui sont très importants pour notre société et pour avoir une culture commune aussi. Enfin, je pense qu'avoir une culture scientifique de base commune, c'est essentiel dans les débats qu'on a dans notre société.
Je vous représente Michel Cabaret, vous êtes le directeur de l'espace des sciences de Rennes. Éric Collet, vous êtes professeur à l'Université de Rennes au sein de l'Institut de physique de Rennes. Et on le redit, la fête de la science est du 6 au 16 octobre ici à Rennes et ailleurs dans le département, dans la région et même en France. Tout le programme, il est à retrouver sur le site fetedelascience.fr et puis sur le site espace-science.org. Et on l'a pas dit, c'est hyper important, mais c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit.
Merci beaucoup. Azmari et son morceau Kamsin sur Canal B. C'était une nouveauté musicale choisie par Yann, notre programmateur musical ici à la radio, et à retrouver sur un album Maelstrom qui est annoncé pour le 20 octobre. C'est le deuxième disque de ce quintet bruxellois formé en 2015 et qui aime mêler musique jazz à des influences orientales, du funk ou encore des rythmes dub. Vous êtes toujours dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au détour d'une phrase, je vous le redis, l'émission n'est plus mise en lumière sur les réseaux sociaux depuis l'été, mais à travers une newsletter, le courrier de l'arène, que j'envoie aux abonnés chaque vendredi et dans laquelle je mets en lumière un reportage, une interview et une info du jour. Si vous souhaitez suivre le courrier de l'arène, rien de plus simple, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et voilà. Avant de se quitter, quand même, la recommandation du jour, ce sont souvent des événements locaux, parfois des choses à lire, à voir ou à écouter. Aujourd'hui, on annonce une journée autour du galop et des droits culturels dans le domaine linguistique. Astour Aster, c'est le nom de l'événement, est organisé par le centre linguistique Chubry, en partenariat avec Bretagne Culture Diversité et Bretagne Galaise. Rendez-vous samedi 7 octobre à la Maison des Associations à Rennes, avec au programme le matin des conférences et l'après-midi des tables rondes, à chaque fois en compagnie d'universitaires. Le soir du samedi, donc, place un fest-noz en collaboration avec le Cercle Celtique de Rennes. Ça se passe au parquet de Bâle, à la ferme de la Harpe, à partir de 19h30. Et le public pourra retrouver sur scène le groupe Vilaine et aussi des artistes bénévoles. Tarif de la soirée, 7 euros. Le programme complet de l'événement, il est à retrouver en ligne sur le site chubry-gallo.bzh et les réservations sont conseillées via la plateforme de financement participatif helloasso.com. Je vous propose, avant de vous laisser, de réécouter un extrait du reportage réalisé avec l'Institut Chubry et diffusé dans cette émission d'information locale en février 2023.
Est-ce qu'il y a une forme d'urgence à agir dans le sens où les locuteurs qui utilisent encore dans leur quotidien le galop ont un certain âge et pour certains disparaissent quoi.
L'urgence, on la voit déjà parce que beaucoup de nos enquêtés décèdent en fait. Il y a 2-3 ans, on avait fait un point sur, pour inviter des personnes enquêtées en fait, pour une rencontre. On voyait qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient partis. C'est très sensible, en particulier sur l'onomastique. Alors, l'onomastique, c'est tout ce qui est l'étude des noms propres, les noms de lieux, les noms de famille aussi, les prénoms. C'est très sensible, parce que le plus facile, c'est de rencontrer des gens qui habitent encore dans leur commune d'origine, enfin, là où ils ont grandi, pour qu'ils aient gardé une bonne mémoire des noms de lieux-dits, des noms de villages, comme on dit en gallo, voir des rivières, des croix, des carrefours et tout ça. Et ces gens-là, ils vont pas avoir forcément une aussi bonne mémoire s'ils sont partis ailleurs, et surtout, les retrouver, c'est pas évident, en fait. Et là, on commence à toucher aux dernières générations de gens qui ont grandi en gallo. Dans 5 ans, déjà, ce sera encore beaucoup plus difficile. On a très peu de temps devant nous. C'est pour ça qu'on a vraiment alerté sur ce sujet-là. Donc déjà, ça va un petit peu mieux dans le sens où on a recruté fin 2021 une documentaliste. Donc ça nous permet aussi de mieux structurer, nous, nos fonds, une fois qu'on a des enregistrements, de mieux maîtriser nos fonds documentaires et de les mettre à disposition à l'avenir. Mais maintenant, vraiment, l'urgence, c'est de pouvoir recruter des enquêteurs. Idéalement, on a besoin d'être une vingtaine en mission sur 3 ans, par exemple, pour aller couvrir toute la Haute-Bretagne et aller dans chaque commune et faire l'inventaire des lieux-dits.
L'arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de l'arène, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.